L'habit d'Arlequin par Adèle Esquiros. Oui, je connais les hommes, je ne les connais que trop. Il y a 6 ans, je fis un petit héritage. C'est incalculable le nombre d'amis que je possédais alors. Chacun était flatté de faire ma connaissance. Je donnais à dîner, je prodiguais les cigares, je payais les staminets et je rendais des points au billard. En revanche, on m'attribuait toutes les qualités de l'esprit et du cœur. J'étais ce charmant Robert, cet excellent Robert. On me prenait pour confident. Des confidences très intimes, ma foi. L'un m'avouait qu'il venait d'oublier sa bourse, l'autre qu'il avait une dette de jeu. Cela ne m'explique pas ton sentiment sur les femmes. Oui, parlons-en des femmes, les femmes. Mais ce sont les femmes qui m'ont dressé les pièges les plus perfides. Ce sont les femmes qui m'ont principalement assailli, trompé, ruiné. Ah, la femme, mon ami, la femme. Ce vampire qui grimace le rire et les pleurs. Ce démon qui vous charme et qui vous enlace pour mieux vous étouffer. Voilà la femme. Tu es fou, dit Théophile, riant de cette sortie. Ce dialogue avait lieu dans une chambre d'étudiants. Un lit en désordre, un secrétaire bureau constamment ouvert, non pour le travail, mais parce que depuis plusieurs mois on avait oublié de le fermer. Des murailles illustrées de charges sans goût et sans talent, aussi pour le décor. Au-dessus de la cheminée, signe caractéristique, était une panoplie garnie de pipes de toute qualité, de toute forme et culottées à tous les degrés. Dans un placard entrebâillé, on voyait, pêle-mêle, des bouteilles vides, quelques assiettes, des fragments de squelettes et des volumes dépareillés de Paul de Kock. Une heure avant le début de cette histoire, deux jeunes gens qui parcouraient la rue de l'école de médecine en sens contraire s'étaient entre-regardés. Ils s'arrêtèrent tout à coup et poussèrent en même temps ces doubles exclamations. « Robert, Théophile, tu habites Paris. Depuis ma sortie du collège, et toi? Est-ce qu'il me serait possible de ne pas habiter Paris? Qu'est-ce que tu fais? Des travaux positifs. Je suis premier clerc chez un notaire, et toi? Je suis étudiant en médecine. Es-tu libre en ce moment? Je demeure à 2 pas d'ici, bien dans ma chambre. Nous fumons le cigare de l'amitié, tout en renouvelant connaissance. » Ces jeunes gens étaient deux amis de classe. Robert, homme de 28 ans, viveur et sceptique, étudiait ou plutôt était censé étudier la médecine depuis 8 ans. Théophile, type du piocheur, avait le sérieux et la gravité d'un homme mûr, quoiqu'il n'eût que 25 ans. Nous connaissons les deux interlocuteurs. Revenons au logis de Robert pour suivre leur entretien. J'admire cette ignorance des choses de la vie. Oh, trop ingénu Théophile, où as-tu donc vécu? Où as-tu donc vécu toi-même? Dans le monde? Tu ne connais pas le monde. Pour te guérir de ta candeur ridicule, nous allons y faire ensemble une petite excursion. Comment? Tu auras la cruauté de me déranger? Je suis si bien dans ce fauteuil. Qui te parle de te déranger? Crois-tu donc que pour ces hommes que je méprise, je ferai un pas? Cher ami, tu ne me connais guère. C'est d'ici, sans quitter ma chope, que je vais jouer le rôle du diable boiteux. Attention! Robert écarta subitement de grands rideaux de damas qui fermaient les croisées et découvrit un étrange spectacle aux yeux de Théophile. On était dans une de ces maisons d'étudiants et d'étudiantes dont les chambres sont pressées et nombreuses comme les alvéoles d'un gâteau de miel. La chambre de Robert donnait sur une cour où une multitude de croisées, ouvertes et pleines de lumière, laissait voir ce qui se passait dans l'intérieur de chaque logis. Le sans-façon accoutumé de ces établissements et la chaleur de la saison explique les facilités offertes à l'observation. Les regards de nos observateurs se portèrent d'abord sur un groupe de jeunes gens, femmes et hommes, fumant et buvant, accoudés sur une table ou renversés en arrière. « Ceci vous représente, » dit Robert, imitant les cicérones de Diorama, « ceci vous représente de nouveau débarqués dans notre centre civilisateur, munis des recommandations, des bénédictions et des économies paternelles. En ce moment, ils oublient ou méprisent les urnes. Ils mangent les autres. Pour eux, la consolation et la gloire présumées de la famille. Pour eux, les sœurs sacrifient leur dot et les grands-pères leur dernière rente. Dot, rente, morale, tout cela est tombé, avec le néophyte, dans un monde nouveau. Tout cela se dénature, se perd dans un tourbillon qui ne laisse ni raison ni conscience. Plus tard, ces jeunes gens reviendront chez eux, blasés, tarés, hommes. Enfin. Deuxième tableau. Théophile aperçut dans une petite chambre deux jeunes femmes qui portaient des coiffures ébouriffantes, des robes à volants, des dentelles et des bijoux. Ces toilettes luxueuses formaient un étrange contraste avec le pitoyable désordre qui leur faisait cadre. La pauvreté morale de ces mannequins habillés ressortait plus misérable encore sur la soie et le velours. Accoudées toutes deux sur un guéridon, elles se faisaient les cartes. « Ceci, dit Robert, vous représente les filles d'une portière de la rue Mouffetard. La mère tire le cordon et fait des ménages. Les filles, je ne dirai pas ce qu'elles font. Ces dames ne passent jamais dans leur rue natale. Elles craindraient d'être reconnues par leurs parents et alliés, les commissionnaires et les marchandes de pommes. » Troisième tableau. Voyez-vous sur ce tapis vert des fiches, des dés et de l'or, autour des femmes et des hommes affairés. Ces hommes sont censés artistes en n'importe quoi et les femmes ouvrières en quelque chose. Voici l'atelier de travail commun. Le hasard, voilà le dieu de ce monde. On compte sur un coup de dés pour payer le dîner du lendemain. Si le hasard n'est pas favorable, on dîne à crédit. C'est le hasard qui répond du loyer. Si le hasard est contraire, on ne paye pas. L'hôtelier vous met à la porte et vous allez recommencer ailleurs une nouvelle existence hasardée. Quatrième tableau. Par cette croisée toute grande ouverte à votre droite, vous voyez une jeune fille. Hein, voilà les rideaux qui se ferment. On ne voit plus rien. Si, deux ombres au travers. Je peux faire la chronique de toutes ces fenêtres et de toutes ces ombres. Hélas ! En ce moment, on entendit de l'étage supérieur des chansons et des danses effrénées. « En voilà qui font la noce !» dit Robert dans son argot d'étudiant. « Et que deviens-tu au milieu de cette étrange société ? Je fais comme les autres !» Un moment après, l'étudiant en médecine reprit, s'adressant à son ami. « Comment se fait-il que depuis 8 ans, je ne t'ai jamais rencontré dans les endroits où l'on s'amuse ? Par exemple, au jardin d'hiver, au château rouge, à Mabille, à la closerie des Lilas, au Ranelagh ou à Robinson. Par une bonne raison, je n'ai jamais mis les pieds. Je ne connais ces endroits-là que de nom. Tu ne t'es donc jamais amusé ? Si. Ah, je me rappelle, dit Robert en éclatant de rire. En effet, au collège, tu étais Monsieur Sainte-Nitouche. Malheureux, tu n'as pas changé. Il était 11 heures du soir. Nos deux amis se levèrent pour se séparer. Tu m'as fait faire ici une étude de mœurs fort intéressante, dit Théophile. « Viens dîner demain chez moi. Nous en ferons une d'un autre genre, car moi aussi, je connais le monde. » Le lendemain, les deux jeunes gens étaient réunis dans un petit logement du faubourg Poissonnière. Le lieu de la scène ressemblait peu à celui de la veille. Pas la moindre pipe, pas la plus petite bouteille cassée, mais des statuettes, des peintures, des livres, et sur le secrétaire, un travail commencé. Le dîner était servi, on se mit à table. Si nous commencions nos excursions extra fenestra, dit Théophile. Il était 6 heures du soir. Il faisait encore jour. Le clerc de notaire ouvrit la croisée. Premier tableau, dit-il, en imitant le ton que son ami avait pris la veille. Voyez-vous, au 5e et dernier étage, une petite lucarne que masquent en guise de rideau les tiges grimpant des volubilis et des fleurs éperonnées des capucines. De cette lucarne, il sort souvent une voix de jeune fille légère et gaie comme une voix d'oiseau. Elle chante ces jolies chansons populaires qui courent les rues. Cette jeune fille habite avec sa grand-mère, ce réduit qui n'a d'autre luxe que l'épanouissement de ses fleurs au printemps. La grand-mère est presque infirme. La petite fille se lève avant le soleil et pour gagner 25 sous, elle court 15 heures par jour. Elle ne porte que des bonnets de mousseline et des robes d'indienne qu'elle blanchit elle-même. Est-elle jolie ? Comme un ange. « C'est une trouvaille. Cher ami, je me recommande à toi. Sois sûr qu'en pareille occasion, mon obligeance ne te manquera pas. Présente-moi dès ce soir à cette jeune fille. » « Aurais-tu envie de faire connaissance avec le manche à balai de la grand-mère ? » ?»« Je comprends. Un amoureux ?»« Il n'est pas question d'amoureux. » »« Qu'est-ce donc que cette jeune fille ?»« C'est tout simplement une jeune fille sage. Il y a un mois, elle a refusé en mariage un des plus riches boutiquiers de cette rue. » Elle l'a refusé pour un motif qui annonce une conscience très délicate, parce qu'elle ne l'aimait pas. Je vote à cette jeune fille une couronne de rosière. Beaucoup ressemble à ma jeune voisine, reprit Théophile, mais on ne les connaît pas, et c'est là justement une preuve de leur mérite, elles ne font pas parler d'elles. Deuxième tableau. À ta gauche, derrière ces rideaux bleus, demeure un bureaucrate avec sa famille. Il y a 6 mois, il avait 3 enfants, et c'était bien assez car il est pauvre. Eh bien, un de ses parents éloignés est venu à mourir, ne laissant pour tout bien qu'un marmot de 5 ans. Il l'a légué à notre brave employé. On travaille quelques heures de plus et tout va bien. Les seuls plaisirs de cette famille, ce sont les promenades en famille au jardin des plantes ou au Luxembourg, avec les cerceaux et les balles. Troisième tableau. À cette petite lucarne, en haut, habite une vieille femme qui a eu beaucoup de malheur, mais une puissance d'honnêteté supérieure à sa mauvaise destinée. Elle a perdu son mari, ses enfants, elle est seule au monde, ou pour mieux dire, sa charité lui refait chaque jour une famille. C'est la garde malade des pauvres du quartier. Ne pourrais-tu pas, interrompit Robert, me montrer quelques tableaux plus piquants et d'une couleur moins monotone, du moins?
Ici, répliqua Théophile, rien d'extraordinaire, mais rien de scandaleux. La vie tranquille et laborieuse, voilà le monde que j'ai sous les yeux, mon ami. Voilà le monde comme il est en général.
Où diable as-tu déterré une pareille maison? C'est un couvent de trappistes.
C'est tout simplement une maison honnête.
Te rappelles-tu une fable qu'on nous apprenait au collège, la vie d'Arlequin?
Non. En voici le sens. Un jour de carnaval, un arlequin passa devant des oiseaux de différents plumages.
« Le bel habit vert, » dit la perruche.
« Le bel habit jaune, » s'écria le serin.
Et ainsi chacun admirait sa couleur.
C'est toujours d'après ce procédé que nous jugeons le monde. Au collège, un enfant est un mauvais élève. Soyez sûr que plus tard, rappelant ses souvenirs de jeunesse, il vous signalera tous les collégiens comme de mauvais garnements.
Un homme manque-t-il de délicatesse dans ses affaires avec la société? Il vous dit bientôt avec désespérance
« Ah, les hommes, les hommes !»
Un autre est-il en amour trompé ou trompeur? Il soupira avec un triste dédain.
Ah, les femmes, les femmes!
Chacun de ces malheureux ne comprend pas qu'il est la perruche ou le serin de la fable.
Le silence régna pendant quelques minutes. Robert reprit.
Dites donc, monsieur le fabuliste, puisque chacun juge d'après soi, que de penser du monde un honnête homme qui se voit trompé, pillé, vilipendé, procédé assez commun? Gratifiera-t-il les trompeurs, voleurs, vilipendeurs de tout l'honneur qu'il porte en lui-même? Ou bien l'honneur en général recevra-t-il une petite entorse? Un honnête homme comprend si peu le mal qu'il a de la peine à y croire, après 1000 preuves de la méchanceté d'autrui. S'il y croit, ce n'est qu'avec réserve et en l'atténuant. Il se dit « Les exceptions ne font pas la règle, et l'honneur en général ne reçoit de sa part aucune entorse. »
Robert, ne sachant quoi répondre, arpentait la chambre à grands pas, quand il s'arrêta de nouveau vers la croisée, d'où l'on apercevait un appartement brillamment éclairé.
« Ah ! » dit-il, « il paraît qu'il y a soirée chez ton vis-à-vis.
Voilà sans doute, » continua-t-il du ton d'un orateur battu qui croit ressaisir l'avantage, « voilà sans doute un essaim d'hommes vertueux et de femmes incorruptibles. » Et l'étudiant éclata d'un rire ironique.
« Cher ami, tu ne pourrais mieux dire. » Cet appartement est celui du notaire, mon patron.
En ce moment, on frappa discrètement à la porte. Un domestique entra.
« Madame, dit-il, invite M. Théophile et son ami à passer au salon, si cela peut leur être agréable. »«
Merci, Jacques. »«
Veux-tu venir ? » dit Théophile à Robert. « Tu verras d'excellentes gens. »
Nos deux amis se trouvèrent bientôt dans un salon de fort bon goût. La société, peu nombreuse, se composait de parents et d'amis intimes du notaire. Madame Sanderson, femme de 45 ans, remplie de grâce et de bonté, vint au-devant de Robert, qu'elle chercha à mettre à son aise.
Hélas, c'était chose difficile. Beaucoup d'hommes sont comme notre étudiant, charmants, même brillants dans la basse région du sang gêne et des mœurs faciles. Ils se sentent comme déplacés dans le monde de la civilisation honnête.
Robert éprouva donc un grand embarras quand il se vit au milieu de personnes convenables.
Maître Sanderson admit nos jeunes gens à sa partie de whist. Une toute blonde et toute gracieuse jeune fille, la fille du notaire, versa le thé. À cette vue, Robert fut ébloui. Chez les hommes qui ne sont pas encore entièrement blasés, la présence si rare d'une créature candide produit souvent une sensation bienfaisante. Robert, le réaliste, Robert, le viveur, devant ses 12 enfants, se surprit à faire un rêve, presque un rêve de poète.
« Nous espérons vous revoir à nos petites soirées, monsieur, » dit à notre étudiant, Madame Sanderson.
« J'espère bien aussi que vous assisterez dans 8 jours à notre fête de famille, » dit le notaire.
Et comme Robert avait l'air de ne pas comprendre, il ajouta « Vous ne refuserez certainement pas d'assister au mariage de Monsieur Théophile avec notre fille. »
le rêve de l'étudiant s'envola.
En sortant, il dit à son ami « Tu vas être millionnaire ».
Le naturel chez lui reprenait le dessus.
Dans cette charmante figure, il ne voyait plus qu'une dot.
« Je vais être heureux, » dit Théophile. « Comment donc as-tu fait ton chemin ?
J'ai travaillé. »
« Et tu aimes cette jeune fille ? Est-ce que je pourrais ne pas l'aimer ?
C'est dommage que je ne t'ai pas rencontré plus tôt.
Tu aurais eu un rival. »
« Ta rivalité n'était pas à craindre.
Que veux-tu, mon ami ? À chacun son lot. À toi les plaisirs et les amours faciles, à moi le travail, mais aussi à moi la récompense, l'amour vrai. »
« Adieu, » dit Robert d'une voix brève. « Nous ne nous reverrons jamais. Tu es trop vertueux pour moi. Reste avec ta maison honnête, tes parents vénérables, ta fiancée qui est un ange. J'étoufferai dans un pareil milieu. Il me faut ma sphère habituelle, peuplée de gens de mon espèce, qui fument, boivent, jouent et font des dettes à loisir. Je te ferai honte à toi, puritain. D'ailleurs, tu vas te marier, et je ne respecte pas les femmes. »
Théophile, pris de pitié, voulut retenir son ancien camarade. Mais il comprit bientôt qu'il était trop tard et qu'il ne changerait pas cette mauvaise nature. Il frémit devant ce type matériel, sans grandeur, sans croyance, ce type dont on rencontre maintes épreuves dans le monde.
Quelques jours après, Théophile épousa Mademoiselle Mary Sanderson et se mit à la tête de l'étude de son beau-père. Robert, quoique invité de nouveau, n'assista pas à la noce. Ce jour-là, il fit une orgie et se grisa avec ses meilleurs compagnons de débauche. En étudiant selon son système ordinaire, Robert, après avoir passé l'âge de 30 ans, a fini par être reçu officier de santé. Aujourd'hui, il exerce la médecine. Il n'a qu'une misérable clientèle composée de ses anciennes connaissances. Robert, comme par le passé, marche les mains dans ses poches et le chapeau en arrière. À son commerce de viveur, il n'a gagné qu'une chose, un excès d'embonpoint qui va toujours croissant. Robert est à la recherche d'une dot. Mais comme il ne s'adresse qu'à des femmes aussi positives que lui, le marché qu'il propose est toujours refusé.
Théophile est au comble de la joie. Il vient d'avoir une petite fille. Maintenant, quand les deux amis se rencontrent, Robert détourne la tête. Le malheureux est mordu au cœur par le serpent de l'envie. Furieux, il ne peut saisir la fortune qu'il poursuit. Il s'en prend à l'injustice du sort, à la malveillance des hommes, à la fatalité des circonstances. Il s'en prend à tout, enfin, excepté à lui-même.
Ainsi s'achève L'habit d'Arlequin par Adèle Esquiros.